Suivez Priorité Santé avec Sunou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sunou Banque avec vous à chaque étape.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Dans Priorité Santé, nous allons parler de la santé des reins et de leur fonctionnement pour comprendre précisément les conséquences d'un dysfonctionnement de l'activité de ces organes pour notre santé en général. Définir tout d'abord la maladie rénale chronique, ses différents stades, l'insuffisance rénale dont l'évolution peut être freinée. Nous allons y revenir largement avec notre invité. Mais quand celle-ci atteint un stade terminal, les recours se limitent à deux solutions, la greffe ou la dialyse. Et nous verrons que dans ces deux cas, le sort des patients insuffisants rénaux est directement lié à l'accès aux soins, à la possibilité ou non d'accéder à ces traitements qui sont très loin d'être à la portée de toutes et de tous en fonction de la couverture santé, bref des moyens financiers, du niveau d'équipement des structures médicales comme de la formation des soignants. Comprendre donc le rôle clé que jouent les reins pour notre santé, c'est essentiel pour en prendre soin au plus tôt pour éviter le pire. Alimentation, hydratation, prévention des comorbidités. Une prévention d'autant plus importante qu'un rein défaillant n'est pas forcément douloureux, contrairement à un certain nombre d'idées reçues. Alors on attend vos témoignages, vos questions, avec des spécialistes pour vous répondre ici, dans les studios de RFI et tout à l'heure à Bangui. Les reins, sentinelles de notre état de santé. La formule est de vous, elle est parlante. Professeur Gilbert Deray, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes néphrologue, professeur honoraire à Sorbonne, Université Paris 6, et vous avez signé, professeur, l'ouvrage « Les pouvoirs extraordinaires du rein » publié aux éditions Fayard. Accès aux soins et maladies rénales chroniques en République centrafricaine. Nous donnerons tout à l'heure la parole au docteur Cédric Wanekpone, qui est néphrologue, ils ne sont que deux pour toute la RCA, directeur médical du tout premier centre de dialyse à Bangui, un centre situé dans l'enceinte du Centre National Hospitalier Universitaire dans la capitale. Et puis en fin d'émission, on va parler des conséquences de la consommation d'émulsifiants alimentaires pour la santé cardiovasculaire, consommation de ces E460, 461, etc., qu'on peut lire sur les étiquettes. On va revenir sur les conclusions de cette étude qui vient d'être publiée à ce sujet avec le docteur Mathilde Touvier. Elle dirige l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle de l'INSERM.
Priorité santé sur RFI.
Alors, professeur Deray, en parlant du rein, vous employez l'expression organe intelligent et connecté, même s'ils sont plus indispensables qu'un smartphone. Est-ce qu'on doit comprendre par là que ce qui est mauvais pour tous les autres organes, ben, ça va finir par avoir un jour ou l'autre un retentissement pour la santé de nos reins?
C'est exactement ça. Alors, pour ce qui est du connecté, hein, c'est de la connexion plus intelligente que celle que nous pratiquons tous les jours. Et en fait, le rein est connecté avec le cœur en particulier, mais aussi le foie. C'est en cela qu'il est connecté. Et c'est dans l'autre sens que ça fonctionne. C'est-à-dire que gardez en mémoire que ce qui est bon pour le rein, c'est bon pour le reste de votre corps. Si vous faites la prévention de la maladie rénale en général, par la nutrition, l'activité physique, on y reviendra peut-être, eh bien, vous protégez vos artères. Et si vous protégez vos artères rénales, vous protégez vos artères du cerveau, du cœur, et donc vous resterez en bonne santé. C'est dans ça que le rein est une sentinelle. Il y a une autre raison, c'est qu'en fait, on a accès très facilement au fonctionnement du rein. Parce qu'il y a du pipi. Il n'y a pas de pipi du cœur ou du pipi du cerveau, ce serait pratique, hein, mais ça n'existe pas. Donc on peut très facilement évaluer comment va le rein, soit en analysant les urines, soit en faisant une prise de sang et en faisant ce qu'on appelle la créatinine, qui permet de savoir comment marchent les reins. Donc vous avez là un organe qui reflète très bien l'état de votre corps et qui est très accessible pour savoir comment il fonctionne.
Alors, beaucoup d'interactions dans les deux sens. On comprend donc que les affections du rein peuvent être provoquées par des facteurs variés, très nombreux. Pour autant, est-ce que le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, l'insuffisance rénale, eh bien pour ces problèmes qui peuvent être assez graves, il y a des facteurs majeurs de risque qui sont bel et bien identifiés?
Absolument. La première cause d'insuffisance rénale dans le monde, et c'est logique, c'est le diabète. Le diabète et l'obésité, ce sont des épidémies. On appelle ça la diabésité. J'ai bien dit des épidémies. Hein. On va compter ça par centaines de millions et ça grandit tous les jours. Or, le diabète, s'il n'est pas bien contrôlé, clairement, ça vous abîme les artères. Hein. Et la moitié des insuffisances rénales mises en dialyse aux États-Unis, par exemple, c'est le diabète. En Europe, c'est 25 à 30. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui, vous traitez correctement, voire même mieux, même. Vous prévenez le diabète de type 2, celui de la maturité, et vous n'aurez pas d'insuffisance rénale. Et ça, ça repose sur quoi ? De l'activité physique, de la nutrition, moins de stress, un travail plus agréable, un environnement plus agréable.
La qualité de vie.
Exactement. Mmh. Et ça, il faut vraiment qu'on prenne tous conscience du fait que nous avons les moyens de prévenir la majorité des maladies, que ce soit le diabète ou d'autres maladies. Et pour ce qui est de l'hypertension artérielle, qui est l'autre facteur de risque important, même chose, il est quand même dommage, extravagant, que des dizaines de milliers de personnes n'ont pas une hypertension artérielle correctement contrôlée alors qu'on a les médicaments. Et donc, on sait que si on traitait correctement l'hypertension artérielle, dans le monde, dans les années qui viennent, ce seraient des dizaines de millions de personnes qui mourraient en moins. Donc, diabète, hypertension artérielle, ça se traite. Qualité de vie, activité physique régulière, nutrition, il faut absolument dire régime méditerranéen, c'est un régime exceptionnel. Si on faisait tout ça, oh, le monde se porterait mieux.
Insuffisance rénale, donc cette maladie qui est évolutive, il y a plusieurs stades. Comment est-ce qu'on distingue les différents stades ?
Alors c'est tout simple en fait, il y a 5 stades, 1, 2, 3, 4, 5, et on les a classés en fonction du niveau de l'insuffisance rénale. Je vais vous donner quelques chiffres, mais rapidement. Quand vous n'avez que 0 à 15% de la fonction rénale, vous êtes au stade 5, en général vous êtes dialysé. Entre 15 et 30, vous êtes au stade 4, et puis vous remontez comme ça. Le stade que moi je vois le plus fréquemment, c'est le 3, entre 30 et 60. Je vais dire pourcent, c'est en fait et même minute, mais qu'importe de la fonction rénale. Quand on les a classés comme ça, c'est international, ça permet de s'y retrouver.
Alors, c'est une maladie silencieuse, pourtant il y a beaucoup d'idées reçues à ce sujet. On dit j'ai mal au rein, or quand on a mal au rein, je crois qu'on a mal au dos plutôt. Comment ça se fait finalement que le rein abîmé, ce soit autant de dégâts et finalement que ça ne fasse pas mal ?
Et oui, c'est un organe très silencieux. En fait, il y a grosso modo que deux situations où il fait mal. C'est ce qu'on appelle la colique néphrétique. Le plus souvent, vous avez un caillou bloqué dans vos voies urinaires et ça, ça fait vraiment mal. C'est une des douleurs les plus violentes qui existent. Puis la deuxième situation, c'est la pyélonéphrite, quand vous avez une infection dans le rein, pas dans la vessie, pas la cystite. Voilà, ce sont les deux grandes situations. Et effectivement, la personne qui vient me voir en me disant j'ai mal au rein, à 99%, c'est pas les reins, c'est la colonne vertébrale, c'est les muscles qui lui font mal. Et alors, pourquoi ça meurt en silence ? Parce que, contrairement par exemple au cœur, hein, quand vous avez par exemple un défaut d'innervation de votre cœur et vous déclenchez des douleurs au niveau de votre cœur, bah, le rein, en fait, il peut se fibroser sans que ne se déclenche rien. D'où l'importance, dès que vous avez des facteurs de risque, de mesurer la créatinine,
c'est
de regarder
ça.
S'il y a de l'albumine dans le sang. Donc si vous êtes diabétique, si vous avez une hypertension artérielle, vous devez avoir une fois par an un bilan rénal.
Quelque chose qui est très important, c'est que vous avez parlé tout à l'heure très rapidement de ces différents stades. On s'arrête sur les premiers stades. Ça veut dire que si on est détecté avec une fragilité au niveau des reins, on peut vraiment freiner l'évolution ?
Complètement. Moi, je dis à mes patients, par exemple, diabétiques ou hypertendus, qui viennent me voir assez tôt. Ils ont un peu d'albumine dans les urines pour les diabétiques, ou ils ont une insuffisance rénale, allez, on va dire de stade 2, ils sont entre 60 et 90, ils me demandent, hein, est-ce que je serai dialysé ? Je leur dis non. Et si je leur dis non, c'est que je pense violemment que c'est non. Sinon, bien sûr, je ne le dirai pas. Et je leur dis non si on contrôle bien vos facteurs de risque. Autrement dit, si on contrôle votre hypertension, votre diabète, et si vous reprenez ou vous prenez une direction de vie VIE qui soit la plus belle possible. Et pas parce que le professeur vous dit « Oh là là, c'est dangereux ». Non, non, parce que vous en aurez envie. On n'arrête pas le tabac parce que le professeur vous dit que vous aurez le cancer du poumon. Et on ne se met pas à courir parce qu'il vous dit que vous serez un jour dialysé. Non, on se met à courir, on arrête le tabac parce qu'on a envie de vivre mieux et bien.
On intègre tous ces conseils. Alors, il y a Andy, auditrice de Madagascar. Elle est Antananarive précisément. Elle a des doutes au sujet de certaines informations sur des infusions. Ce n'est pas anecdotique hein, parce que ça peut concerner la vie quotidienne de beaucoup de celles et ceux qui nous écoutent. Elle a lu sur les réseaux sociaux que certaines décoctions de plantes pourraient prévenir les insuffisances rénales. Elle demande si c'est vérifié ou non.
Ah, ça, c'est une excellente question et je vous conseille d'être extrêmement prudent et prudente. D'abord, non, il n'y a pas de traitement de médicaments ou d'infusions qui préviennent l'insuffisance rénale. Ça n'existe pas. Par contre, n'oublions pas que la pharmacopée à la base, ce sont des plantes. Et que donc, vous avez des plantes qui sont toxiques. Et moi, mon conseil, il est simple. Hein, je vous déconseille toutes les plantes dont vous ne connaissez pas strictement l'origine. Bien sûr, si je vous sers un thé d'une origine contrôlée, il n'y a aucun problème. Mais si c'est une plante que vous ne connaissez pas, ne la prenez pas.
Parce que ça fait de l'effet.
Et je rappellerai qu'il y a 20 ans, nous avons eu des dizaines de femmes qui se sont retrouvées en dialyse avec des cancers des voies urinaires, parce que les pauvres avaient consommé des gélules d'une firme connue que je ne citerai pas. qui contenait des plantes.
J'imagine que c'était amaigrissant. Quelque chose me dit que ça devrait
être
amaigrissant.
D'origine chinoise, qui était censée faire maigrir. Mais le problème, c'est qu'ils se sont trompés dans la plante. Et qu'ils se retrouvaient avec une plante extrêmement toxique. Donc surtout, vous ne prenez pas. Prenez du thé. Le thé, c'est excellent. Prenez du café. Le café, c'est excellent.
En tout cas, on a une autre question. Là, c'est Yann Junior. Quand on arrive à quelque chose de plus grave, question simple et importante, est-ce qu'on peut vivre avec un seul rein en cas de défaillance de l'autre, professeur ?
Alors, un seul rein, c'est pas grave du tout. On vit normalement avec un seul rein, s'il est normal, bien sûr. Par exemple, si je vous enlève un rein pour un cancer, ou si vous donnez votre rein à un proche, vous vivez normalement jusqu'à la fin des temps. Et bien entendu, là encore, avec un mode de vie adapté. Et d'ailleurs, le meilleur exemple du fait qu'on peut vivre avec un seul rein, c'est que si ce n'était pas le cas, je ne me permettrais pas, moi, de prélever des reins à des hommes et des femmes pour qu'ils donnent à leurs enfants, par exemple. Je ne pourrais pas faire ça. Et donc, oui, on peut vivre avec un seul rein. Il faut y veiller. Et si, par exemple, vous avez un seul rein et que vous êtes hypertendu, plus encore, contrôlez votre hypertension artérielle. Enfin, quand je dis contrôler, ramenez-la à la normale.
Il faut faire attention à son patrimoine rénal, on va
Absolument, et tout son patrimoine en général.
Alors, on va poursuivre cet échange. On prendra des questions d'auditeurs et d'auditrices en direct. Professeur Gilbert Deray, juste après, ce titre de Maria Siga, c'est Darai Dounia.
Bagano polute amul kenu kumu gis Gisotul nda yak bai telefe chai baga Tek shi mai ki wara ufi rakam Muda ke nyafe sasune mui gandhi jafe Te ul mulank banya tok shi bajak lei Rusna de luga lemfek amulum yo bale Asgor lo rusna nyam Yena sai chin bad life na Neisan aka jango pare lijas ya kar bu mu amutas taqderi fun ko fek ramas way lawi rew mi kulendi ar naxsa sunne sunun muy ganita sun avenir la nhamta
Priorité santé sur RFI, nous parlons de l'insuffisance rénale, facteur de risque, question clé de l'accès à la dialyse en cas d'insuffisance terminale. Toujours avec nous en studio, professeur Gilbert Deray, néphrologue. On l'a compris, professeur, protéger ses reins pour éviter l'irréversible, leur destruction. Ça relève peut-être de l'évidence, mais pour protéger ses reins, boire beaucoup d'eau, ça ne suffit pas.
Alors non seulement ça ne suffit pas, mais ça ne sert à rien. C'est un mythe. Boire beaucoup pour protéger ses reins, on a tous appris ça, moi aussi. Et puis, dans les dernières années, il n'y a pas si longtemps, on a montré qu'effectivement, ça ne servait à rien. Alors, par contre, vous avez quand même deux grandes situations où c'est utile. C'est la lithiase, c'est-à-dire le caillou dans les reins. Et là, ce n'est pas seulement boire beaucoup, mais c'est répartir les boissons au cours de la journée, très important. Et puis, l'infection urinaire, la cystite. Et là encore, ce qui est important, ce n'est pas de boire 15 litres par jour, mais c'est d'en boire, par exemple, 2, mais régulièrement. Et puis avec les autres mesures de prévention. Pour le reste, si vous avez une insuffisance rénale, par exemple, et que le médecin vous dit buvez des litres et des litres et des litres, ça ne sert à rien, vous ne pourrissez pas la vie avec ça.
Alors, est-ce que justement dans votre pratique, là, vous avez parlé en quelque sorte d'une fausse croyance, vous en avez constaté d'autres, justement, des idées reçues associées à la santé des reins ?
Ah, cette question, ça, c'est une question intéressante. Oui, on l'a déjà dit, mais sur j'ai mal aux reins.
La douleur.
Et j'ai beaucoup de mal à convaincre certains de mes patients que ce n'est pas les reins, parce que les patients, ils veulent un diagnostic. La deuxième chose, oui, c'est très clairement boire beaucoup, ça protège les reins. Et puis il y a une croyance qui est plutôt une non-connaissance. C'est grosso modo, les reins, c'est pas noble, ça fait du pipi, point à la ligne. Et en fait, le rein, c'est un organe beaucoup plus compliqué que ça. Et je voudrais insister sur le fait que, par exemple, le rein fabrique, plutôt active la vitamine D. Mmh. Que si vous avez une insuffisance rénale, que je ne vous donne pas de la vitamine D, vous avez une carence en vitamine D, vous allez faire une ostéopause. La deuxième chose extrêmement importante, c'est que le rein fabrique cette hormone qui s'appelle l'érythropoïétine, que certains sportifs utilisaient à tort.
EPO.
EPO. Mmh. Et qui permet... qui est en fait l'hormone qui stimule la synthèse des globules rouges. Mmh. Donc si vous avez une insuffisance rénale, vous pouvez avoir une anémie. Mmh. Et l'anémie, c'est le manque de globules rouges. Ce qui est fabuleux, c'est que depuis maintenant presque 40 ans, je dispose de l'EPO, j'en ai. Mmh. Et je peux la donner à mes patients. Donc l'époque des transfusions est terminée. Je leur donne une petite injection une ou deux fois par mois et ça restaure tout. Donc le rein, c'est un organe, je vais me répéter, alors vous avez compris que j'aime beaucoup le rein. Hein.
Oui, on a compris, vous êtes l'impresario des reins.
Ah, j'adore. Mmh. C'est un organe intelligent, très généreux parce que connecté avec les autres organes. Je vais vous donner un exemple du fait qu'il soit généreux. Si vous avez le cœur malade et que le rein ne va pas bien, et bien le rein va se sacrifier pour le cœur. Ça, vous avez vu comme il est beau quand même, comme il est sympathique,
altruiste,
cet organe. Hein. Mmh. Et donc, considérez pas le rein comme un organe auxiliaire, hein, même si on ne l'appelle pas organe noble. Les organes nobles, c'est le cœur et le cerveau, pour des raisons historiques. Puis pour le plaisir, allez, quand vous regardez la Bible, le rein est cité de mémoire une vingtaine de fois dans le Nouveau Testament comme étant un organe siège de l'intelligence et de la sagesse. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'y crois.
C'est peut-être le troisième cerveau, c'est ça, ce que vous êtes en train de dire ?
Au moins.
Au moins. Alors tout de suite, on va prendre une auditrice en ligne pour ça. On part au Cameroun.
RFI à Yaoundé, 105.5 FM.
En ligne avec nous, c'est Honorine. Honorine, bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors Honorine, vous êtes âgée de 33 ans, vous êtes atteinte d'une maladie systémique bien particulière. C'est bien cela. De quelle maladie s'agit-il, s'il vous plaît ?
Alors j'ai un lupus.
Oui.
Et qui a induit une insuffisance rénale.
Ça remonte à quand justement cette insuffisance rénale directement liée au lupus ?
J'ai été diagnostiquée il y a 3 ans.
Et il y avait des symptômes particuliers qui vous ont conduit à l'hôpital, Honorine ?
Exactement. Alors, j'ai eu pendant plusieurs mois, disons 6 mois, les pieds qui enflaient tant. En fin de journée, j'avais les pieds très enflés. Le matin, j'avais le visage enflé. Alors, je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait. Et j'ai dû appeler mon médecin pour lui dire que je ne vais pas bien parce qu'un jour, j'ai eu très, très mal à la tête. Mais alors, très mal.
À ce moment-là, excusez-moi, Honorine, vous saviez déjà que vous étiez justement, vous aviez un lupus ou c'était juste l'œdème qui vous a conduit à avoir un double diagnostic, en même temps le lupus et en même temps l'insuffisance rénale ?
Effectivement, c'est l'œdème qui m'a conduit à faire des examens approfondis qui ont pu déceler en même temps le lupus.
D'accord.
Et l'insuffisance rénale.
Et dans le cadre de cette hospitalisation, tout de suite, on a pris en charge vos reins. Vous avez été dialysé ?
Oui, j'ai été dialysé, mais au bout de quelques semaines.
Au bout de quelques semaines. Et vous aviez des médicaments en plus ?
Oui, beaucoup de médicaments. J'ai eu ce qu'ils appellent un bolus. Pour pouvoir tenir, parce que j'étais très, très mal en point.
Et aujourd'hui, vous avez un spécialiste qui s'occupe de vous, qui vous suit au Cameroun ?
Oui, j'ai une équipe de néphrologues qui me suit à Yaoundé pour mon insuffisance rénale et mon lupus.
Et les dialyses ont repris aujourd'hui ?
Oui, les dialyses ont repris, parce que j'ai eu la chance arrêté pendant un moment. Donc j'ai commencé les dialyses. J'ai dialysé pendant 4 mois. Mais ensuite, on m'a dit que mon rein était en train de revivre. Donc, j'ai arrêté les dialyses pendant un an et demi.
Oui.
Et on m'a mise sous corticoïdes. Donc, je prenais des corticoïdes et un médicament qu'on appelle Selcept. Un immunosuppresseur.
D'accord. Mais après, du coup, l'insuffisance est revenue, si j'ai bien compris.
Oui, parce que je faisais une intolérance au Selcept.
D'accord.
J'étais très mal à l'aise pendant un an et demi. Quand on a arrêté le traitement, j'ai dû repartir en dialyse parce que le taux de créatinine ne faisait que grimper.
Le centre de dialyse, si j'ai bien compris, il est chez vous à Yaoundé. Est-ce que c'est compliqué d'y accéder? Est-ce que tout se passe bien de ce côté-là?
Alors, de nos jours, depuis que j'ai recommencé les dialyses, je vais dire depuis quelques mois, ça va mieux.
Ouais.
Mais c'était très difficile parce qu'à Yaoundé, on a un seul centre de dialyse pour plus d'une centaine de malades. Donc, c'est un peu compliqué, mais on réussit à faire deux dialyses par semaine. Et il s'arrange à ce que ça aille mieux de jour en jour, quoi.
Deux dialyses par semaine. Je vais vous reprendre en ligne pour vos questions, hein, Honorine. Je me tourne juste vers le professeur Gilbert Deré, notre auditrice du Cameroun, qui a donc une maladie inflammatoire d'origine auto-immune. D'ailleurs, on en a parlé récemment dans Priorité Santé. Le lupus qui a des conséquences pour ses reins. De quelle manière cette maladie agit-elle, cette maladie, sur ses organes?
Bonjour madame. Alors d'abord, l'atteinte rénale au cours de lupus est fréquente. C'est au moins 50%, et donc je ne suis pas étonné que dans une maladie rénale, dans un lupus, il y ait une maladie rénale. En fait, c'est une maladie, comme vous l'avez dit, auto-immune, c'est-à-dire que c'est votre organisme qui va, entre guillemets, attaquer certains de vos organes. On peut dans le lupus avoir de nombreux organes qui soient touchés, comme je viens de le dire, donc le rein étant extrêmement fréquemment touché. Et ce qui va se passer dans le rein, c'est de l'inflammation et une prolifération de cellules à l'intérieur de votre structure rénale. C'est-à-dire vos cellules qui sont là normalement vont être en quantité, on va dire, beaucoup trop importante. Ça va finir par, alors l'expression n'est pas forcément très bonne, mais c'est un peu ça, par étouffer vos reins, on va dire. Bien. Ce n'est pas du tout du cancer, hein. C'est de l'inflammation, c'est de la prolifération cellulaire, mais ce n'est pas du tout du cancer. Et oui, ça peut conduire au stade, on va dire, de l'insuffisance rénale. Alors, le traitement reçu, c'est-à-dire corticoïdes et Selcept, sont classiques. Ce sont effectivement les traitements que l'on donne. Et bah, malheureusement, parfois, on n'arrive pas à freiner la maladie rénale et ça conduit à la dialyse. Alors, ça a un avantage, si je puis me permettre, dans cette situation dont je ne doute pas, madame, qu'elle soit difficile pour vous, c'est que quand on est en dialyse, souvent, ça éteint le lupus. Comme si le fait que les reins ne soient plus une cible éteigne les autres cibles. Ça, c'est un élément intéressant et plutôt favorable de cette complication.
Alors peut-être, je vais me retourner vers Honorine qui a une série de questions
oui.
À vous poser. On vous écoute maintenant, Honorine, s'il vous plaît.
Alors, merci beaucoup, professeur. J'aimerais savoir, s'il vous plaît, est-ce que je pourrais avoir des enfants? Si oui, dans quelles conditions? Parce que depuis que je suis malade, je ne saigne plus normalement.
Oui, c'est, j'ai envie de vous dire, c'est logique, c'est ce qu'on voit à peu près tout le temps. Alors, est-ce que vous pouvez avoir des enfants? La réponse globalement est oui. Est-ce que c'est facile? Non. Parce qu'effectivement, comme vous l'avez constaté, vous n'avez plus de
règles,
de menstruation, ce qui veut dire que vous n'avez plus d'ovulation. Néanmoins, alors pas très fréquemment, hein, il faut quand même que je le souligne, rarement nous avons des femmes en dialyse qui ont une grossesse. Et je voudrais souligner, et même si ce n'est pas forcément simple, j'ai bien compris, qu'à la fois pour tomber enceinte et pour que la grossesse puisse se faire, la fréquence de la dialyse est importante. Et que dans ce contexte, pour une nouvelle fois avoir cette grossesse et pour qu'elle puisse être conduite à terme, c'est vrai que le nombre de dialyses par semaine, si possible, devrait être augmenté.
Ça veut dire passer par exemple à 3 dialyses par semaine pour Honorine?
Au moins.
Honorine, vous avez parlé de la fréquence de ces dialyses avec le spécialiste néphrologue qui vous suit. Est-ce qu'il a dit, évidemment, pour vous, ce serait mieux 3, mais actuellement, on ne peut n'en faire que 2?
Oui. Dans des cas vraiment spéciaux, on peut passer à 3 fois par semaine.
Oui.
Madame, si je puis me permettre, une nouvelle fois, je ne doute pas de la difficulté. Si vous le pouvez, passez à 3 par semaine, c'est mieux.
Du côté de la vie quotidienne, Honorine, aujourd'hui, est-ce que vous faites de l'activité physique, par exemple? Est-ce que vous avez notamment la force? Et est-ce que vous êtes motivée pour le faire?
Alors, j'aimerais bien, mais ça fait 3 ans que je ne fais plus d'activité sportive.
Pourquoi, Honorine? Pourquoi?
Parce que je suis très fatiguée.
Fatiguée, d'accord.
Fatiguée, mal aux articulations. Essoufflée par moments parce que je suis tout le temps anémiée.
Est-ce que vous êtes en surcharge pondérale, Honorine? Est-ce que vous avez un surpoids?
Non, au contraire, j'ai perdu près de 30 kilos depuis que je suis tombée malade.
D'accord. Donc aujourd'hui, vous n'avez pas de surpoids.
Alors, on pourrait essayer, madame, peut-être d'ajuster certaines choses pour améliorer. Alors, premièrement, est-ce que l'activité physique est contre-indiquée? Surtout pas, au contraire. Je la recommande. Deuxièmement, on va peut-être essayer de différencier activité sportive et activité physique. Bien entendu, vous n'allez pas, pour l'instant, pouvoir reprendre une activité sportive. Je ne sais pas si vous l'étiez, mais parce que vous êtes trop fatigué. Par contre, avoir une activité physique, même sous la forme de la marche, fragmentée, ça, c'est très, très bien, ça. Alors, pourquoi fragmenter? D'abord, parce que ça évite de rester, de faire une heure de marche, puis 23 heures de canapé, ça, c'est pas bon. Et là, je me tourne vers tout le monde, faut jamais faire ça. Une heure de course et 23 heures de canapé, c'est pas bon du tout. Donc, vaut mieux fragmenter. La deuxième chose, c'est que ça vous sera plus facile. Et moi, je suis, entre guillemets, pour vous, même marcher 5 minutes, 10 minutes, vous arrêter parce que vous êtes essoufflé, puis reprendre, c'est très bien ça. Pour ce qui est de l'anémie, je conseillerais... Premièrement, de vérifier si vous n'avez pas un manque de fer. Et si vous avez un manque de fer, de vous traiter. Parce que la cause de l'anémie, il y en a deux chez vous. C'est un, le manque d'érythropoïétine, qui est sécrétée par le rein. Et deux, le fer. Donc si vous aviez par exemple un manque de fer et qu'on vous donne du fer, ça pourrait remonter vos globules rouges. Et bien entendu, après, il y a l'érythropoïétine, si vous pouvez en disposer. Donc oui, continuez vos activités physiques le plus possible et à la mesure de ce que vous pouvez faire.
Un grand merci à vous, Honorine, pour votre participation. Bonne journée au Cameroun. C'est maintenant de Conakry de la Guinée que nous donnons la parole à Amadou. Amadou, bonjour.
Bonjour, Caroline. Bonjour à notre professeur. Comment allez-vous?
Ça va bien, merci Amadou. Alors vous, vous inquiétez au sujet de l'un de vos amis qui souffre d'insuffisance rénale. Ça fait combien de temps que cet ami a été diagnostiqué, Amadou?
Depuis une année quand même.
Est-ce que vous pouvez nous donner son âge à cet ami?
Il a 25 ans.
25 ans, très jeune. Oui. Est-ce qu'il a d'autres maladies?
Il a de l'hépatite 2. Et il a aussi du diabète en même temps.
Il a du diabète et une hépatite B. Ce diabète, il l'a depuis qu'il est tout petit? C'est un diabète de type 1 ou c'est un diabète de type 2 parce qu'il est en surpoids ou qu'il a des problèmes au niveau de son hygiène de vie?
Donc, il a des problèmes quand même, parce que chaque fois, il me demandait, il a des difficultés. Chaque fois, il est fatigué, tout le temps, il est fatigué.
Oui, oui. Et comment est-ce qu'il est pris en charge aujourd'hui? Vous dites, cet ami, il a une insuffisance rénale. Comment est-ce qu'il est soigné?
Donc, actuellement, leur information, je ne sais pas. Donc.
Mais c'est lui qui vous a dit, j'ai une maladie des reins, c'est ça?
Oui, il avait des problèmes quand même, l'insuffisance. À chaque fois, il allait à l'hôpital pour faire la filtration.
D'accord. Ça veut dire qu'il a eu des dialyses à l'hôpital. On l'a branché à une machine pour en quelque sorte faire un rein de l'extérieur pour filtrer les différents liquides de son corps. C'est ça?
Oui, vraiment.
C'est ça. Et vous avez des questions, Amadou, sur cette maladie, l'insuffisance rénale? Allez-y, le professeur vous écoute.
Ok, j'ai beaucoup de questions si c'est possible.
Allez-y.
La première question, quels sont les symptômes de l'insuffisance rénale? Deuxièmement, quelles sont les causes de l'insuffisance rénale?
Alors ça, je m'excuse Amadou, mais est-ce que vous écoutez l'émission depuis le début?
Oui, bien sûr.
Alors vous avez entendu, hypertension artérielle, diabète, le fait de la sédentarité, tout ce qui... On a compris que le rein, il était vraiment central. Donc en général, quand on a un problème de santé, ça va avoir un retentissement sur le rein. Et puis le contraire vaut également. Quand vous dites maintenant quels sont les symptômes, tout à l'heure, professeur Doré, on l'a dit, précisément, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas forcément de symptômes extérieurs. C'est qu'il faut contrôler puis avoir une bonne hygiène de vie. Professeur.
Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit, monsieur. La première, c'est que pour savoir si nos reins vont bien, c'est facile. On fait une prise de sang, on dose ce qu'on appelle la créatinine, et puis on peut regarder dans les urines s'il y a des anomalies, en particulier s'il y a des protéines dans les urines. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les causes d'insuffisance rénale ou de maladie rénale sont extrêmement nombreuses. La plus fréquente, ou les plus fréquentes, c'est ce qu'on appelle les maladies métaboliques, c'est quand vous avez du diabète, de l'hypertension artérielle, du surpoids, et puis après, derrière, vous avez tout ce qu'on appelle les maladies auto-immunes, vous avez des médicaments. On va surtout s'attarder sur les premières. C'est vrai qu'il n'y a pas de symptômes spécifiques. Quand vous perdez la mémoire, vous dites « Ah, ben, c'est la tête ». Quand vous avez une douleur thoracique au niveau du thorax, vous dites « Ah, c'est le cœur ». Mais le rein, en fait, il n'y a rien de spécifique. Donc, en fait, les signes, ça va être des choses comme la fatigue, les jambes qui gonflent, une hypertension artérielle. Donc, vous voyez, c'est assez vaste. Donc, mes conseils sont les suivants. Un, si vous avez des facteurs de risque, du diabète, par exemple, ou de l'hypertension, surveillance rénale. Ça, c'est classique, les médecins le savent. C'est au moins une fois par an. Et on sait tout de suite si vous avez une maladie rénale. Et deux, si vous avez, je dirais, l'un des symptômes que j'ai dit, c'est pareil, on dose la créatinine et on vérifie s'il y a de l'albumine et on le sait. Puis après, pour la prévention. Alors, on peut faire de la prévention de l'insuffisance rénale, parce qu'en fait, la prévention de l'insuffisance rénale, globalement, c'est de la prévention, c'est de la protection artérielle. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, monsieur, c'est que si vous faites de la protection de vos reins, vous faites de la protection de tout. De votre cœur, de votre cerveau, de vos jambes, c'est absolument magnifique, puisque vous protégez vos artères. Et ce n'est pas que les artères rénales que vous protégez. Et les grandes lignes, j'ai déjà dit, mais je vais le redire, parce que c'est extrêmement important. Un, si vous avez des facteurs de risque, le médecin s'en occupe et il les contrôle. Il traite le diabète, il traite l'hypertension artérielle. Et moi, je vais vous dire, finalement, au bout de 5 minutes, mes patients, je sais ce qu'il faut faire, j'ai fait ce qu'il fallait. Et je leur dis toujours, écoutez, moi, je suis, 5% de votre avenir. Et 95%, c'est vous. Et c'est vous qui avez déterminé votre avenir médical. D'ailleurs, je m'adresse à vous directement, monsieur. Et en fait, comment vous allez faire votre avenir? Eh bien, parce que vous allez avoir une activité physique régulière. De la marche suffit, quotidienne. Vous allez, pour l'alimentation, aller près de ce qu'on appelle le régime méditerranéen. Vous irez regarder ce que c'est sur Internet. C'est exceptionnel. Prévention du cancer, de l'Alzheimer, des maladies cardiovasculaires, c'est exceptionnel, m'a dit ça. Ensuite, troisièmement, le mode de vie. Bien dormir, c'est important. Le sommeil, par exemple, c'est une zone de réparation. On ne doit pas négliger son sommeil. Et enfin, j'ajouterai tout ce qui est le stress. Ça, le stress, je pourrais vous le développer longtemps, mais je ne vais pas le faire.
Allez sur RFI.fr, émission Priorité Santé consacrée au stress. C'était il n'y a pas très longtemps. Maintenant, on part pour la République centrafricaine.
RFI à Bangui, 99.8 FM.
Ravi de vous avoir en ligne, docteur Cédric Ouanekpone, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour professeur Durif.
Alors, vous êtes néphrologue, directeur médical du tout premier centre de dialyse à Bangui, docteur, centre national d'hémodialyse qui est localisé dans l'enceinte du centre national hospitalier universitaire. Il a ouvert ses portes il y a combien de temps, ce centre de dialyse?
Ce centre de dialyse a ouvert ses portes le 25 mai 2022. Donc, on a commencé la toute première séance de dialyse.
Et c'est une date importante parce qu'avant cela, il n'y avait pas de centre de dialyse à Bangui. Donc, on l'a compris, c'est compliqué pour les personnes qui sont malades du rein sur place. D'autant plus, docteur, que vous êtes aujourd'hui très peu nombreux à exercer la néphrologie dans le pays. C'est bien ça?
Effectivement, nous sommes deux néphrologues actuellement sur place au niveau du pays qui travaillent actuellement.
Avant l'entrée en fonction de votre centre, donc mai 2022, comment faisaient les malades, les patients insuffisants rénaux dans cette capitale centrafricaine et même dans le pays? Comment est-ce qu'ils faisaient?
Et c'était très simple. Ceux qui avaient les possibilités, c'est-à-dire moins de 5%, pouvaient aller dans les pays où il y avait la possibilité de faire la dialyse, le Cameroun, Tunisie ou en France, mais ceux qui ne pouvaient pas décédaient tout simplement parce qu'il n'y avait pas de statistiques, il n'y avait pas de suivi dans ce sens.
On comprend bien la cruauté extrême de cette situation. Votre centre aujourd'hui, comment est-ce que ça marche? Comment ça fonctionne en termes, par exemple, de ressources humaines? Comment se compose l'équipe sur place?
Et effectivement, nous sommes une équipe de 13 personnels soignants, donc 3 médecins, 2 néphrologues, 1 médecin généraliste et 10 infirmiers qu'on a essayé de former en hémodialyse. Donc depuis mars 2022, on a pris du temps pour faire une sélection des infirmières par voie de concours. On a essayé de leur donner un peu les acquis en hémodialyse. Mon collègue et moi, on a commencé à faire de l'infirmier avec eux pour brancher les patients et tout. Et voilà comment le centre fonctionne. Et à côté de cela, il y a un certain nombre de personnels d'appui, techniciens de surface, garçons de salle et le côté administratif également.
Docteur, vous avez employé l'expression « brancher les patients ». Vous avez combien de patients branchés aujourd'hui ?
Aujourd'hui, nous avons une capacité de 10 générateurs et donc nous faisons 2 séances par jour. Et donc, on peut dialyser 20 patients par jour. Et donc, chaque patient, on fait au moins 3 séances pour chaque patient, donc dans la dialyse conventionnelle. Et nous avons donc une 60aine de patients que nous suivons en plus des patients aigus.
Alors, ça veut dire que, par exemple, aujourd'hui, du côté du profil de ces patients, les antécédents, c'est quoi en général ce qui a conduit à ce stade terminal de l'insuffisance rénale ? Quel type de pathologie ?
C'est l'hypertension artérielle qui vient en premier lieu dans les antécédents de nos patients qui sont atteints de maladies rénales chroniques et suivi du diabète. Maintenant, pour tous les autres patients qui ont plus une insuffisance rénale aiguë, c'est beaucoup plus les causes infectieuses et puis les causes liées à la grossesse. Donc des patients qui ont fait des éclampsies, des hémorragies de délivrance ou une infection sévère dans un contexte de grossesse ou d'accouchement, voilà, représentent les patients aigus que nous recevons.
Des patients aigus, pour bien comprendre, ça veut dire que ces personnes-là, ils n'auront pas forcément derrière une dialyse à vie, hein, c'est ça ?
Exactement, ce sont des patients qui, pour un événement médical malheureux, une infection, une maladie, peuvent présenter une insuffisance rénale aiguë qui, si elle est prise en charge très rapidement, peuvent récupérer et puis voilà, vivre correctement.
Alors on imagine que pour les personnes dialysées 3 fois par semaine, ça représente un budget absolument conséquent et c'est très très loin d'être à la portée de tous centrafricains.
Effectivement, ça c'est notre principal défi parce que les séances d'hémodialyse coûtent 20 000 francs par séance, c'est-à-dire autour de 30 euros pour chaque patient. Donc l'étude qui a été faite pour évaluer les intrants pour chaque séance de dialyse revenait à 180 euros pour chaque séance. La République centrafricaine étant un pays enclavé, donc pour amener les intrants et tout. Et donc, il y a une subvention de l'État en termes de consommables qui prend en charge les 150 euros pour que les patients ne payent que 30 euros. Mais 30 euros, ça reste vraiment très élevé par rapport aux revenus du centrafricain lambda.
Je ne sais pas si je peux me permettre de vous poser cette question un peu personnelle, mais par exemple, est-ce que ce serait accessible pour quelqu'un qui a votre niveau de vie, vous qui êtes un docteur spécialiste ? Vous auriez l'argent pour payer ça ?
Très péniblement, je pourrais payer ça, mais je ne pourrais plus vivre correctement.
C'est ça. Donc on imagine. On imagine.
Effectivement, ça dépasserait la moitié de mon salaire le mois.
Donc on imagine que si vous aviez un dernier message à donner, c'est en ce sens, hein, parce que les besoins sont tellement importants pour soulager la population.
Effectivement, les besoins sont tellement importants et que vraiment beaucoup d'efforts doivent être faits dans ce sens, continuer à être faits, étant donné que c'est juste le premier centre, il faudrait en ouvrir dans d'autres régions du pays pour rapprocher au moins ça des patients. Mais qu'on commence progressivement au moins à revoir les prix et à rendre ça plus accessible.
Un véritable chantier pour vous et pour la santé du pays en Centrafrique. Un grand merci à vous, hein, docteur Wanek Poney. Très, très bonne journée à Bangui. On vous retrouve dans nos studios, professeur Gilbert Deray. Je vous ai vu très attentif. Évidemment, immense différence en termes d'accès aux soins, on peut dire, de chance, d'espoir pour les patients. Peut-être une réaction ?
Ah oui, d'abord merci à mon collègue pour ces informations et ce témoignage. Ce n'est pas juste un témoignage, hein, c'est de l'information capitale. Oui, je suis un peu bouleversé pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il faudra qu'on prenne tous conscience que l'accès aux soins est une chance. absolument extraordinaire et que nous qui avons un accès aux soins gratuits, peut-être falloir qu'on se batte un peu pour le préserver. On est à des années-lumière de ce que nous venons d'entendre. La deuxième chose qui me paraît capitale, c'est que mon collègue, et vraiment je le remercie, il nous dit que les principales causes, c'est l'hypertension et le diabète. Il faut souligner le fait que, par exemple, l'hypertension artérielle ne devrait presque jamais être une cause de dialyse. Et on a là, pour le diabète et l'hypertension, un terrain de prévention absolument capital. Et c'est sur ça qu'il faut qu'on se concentre. Mmh. Il faut absolument que dans tous les pays en Afrique, on arrive à faire de la détection déjà du diabète et de l'hypertension, parce qu'on ne la fait pas, et qu'ensuite on puisse offrir les traitements. Un, ça coûtera moins cher, beaucoup moins cher. Et puis deuxièmement, en matière de qualité de vie et de vie en général, c'est beaucoup mieux. Et une dernière chose, merci à mon collègue pour son implication et son courage.
Son courage, effectivement. Grand merci pour votre participation, professeur Deray. Très, très bonne journée. Dans quelques instants, on va parler nutrition, forcément. Ça vous intéresse, en particulier des risques liés à certains additifs alimentaires. Il s'agit des résultats d'une étude. Une équipe de chercheurs en nutrition s'est intéressée à l'impact de la consommation d'émulsifiants alimentaires sur la santé cardiaque. Résultat publié dans la revue British Medical Journal. En ligne avec nous, docteur Mathilde Touvier, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes la directrice de l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle de l'INSERM. Vous avez dirigé l'équipe qui a conduit précisément cette étude, équipe issue d'ailleurs de plusieurs structures de recherche. Et vous avez analysé des données de santé qui portaient sur une cohorte de combien de personnes ?
Alors nous travaillons dans le cadre de la cohorte Nutrinet Santé et donc nous sommes sur près de 100 000 adultes de la population française.
Sur quelle durée, combien d'années ?
Nous avons démarré en 2009. Donc les premiers inscrits nous suivent depuis cette date-là. Et puis on continue encore aujourd'hui le suivi des participants et d'ailleurs l'inclusion de nouveaux volontaires pour ceux qui voudraient rejoindre l'aventure.
Alors les émulsifiants alimentaires, on va essayer d'être les plus clairs possibles. De quoi il s'agit précisément et surtout, on les trouve dans quel type d'aliments ?
Alors là, il s'agit d'additifs alimentaires qui sont ajoutés pour améliorer les propriétés sensorielles de l'aliment en termes de texture, donc faire notamment que des matières grasses et des matières aqueuses puissent se mélanger, alors que normalement, si on ne les ajoute pas, ça ne se mélange pas. Donc on en retrouve dans énormément de produits industriels qui peuvent aller donc des crèmes glacées, biscuits, pâtisseries industrielles, mais aussi certaines préparations à base de fruits et légumes ou certains desserts lactés.
Alors, le sujet de votre étude, c'est donc quand on mange ces produits un petit peu chimiques, il faut bien le dire, qu'est-ce que ça fait sur le cœur et sur les maladies cardiovasculaires ? On parle de quelles maladies cardiovasculaires, s'il vous plaît, docteur Touvier ?
Alors là, on s'est intéressé à l'ensemble des maladies cardiovasculaires, donc à la fois coronariennes, comme par exemple l'infarctus du myocarde, ou bien des maladies cérébrovasculaires, comme l'accident vasculaire cérébral, par exemple. Et donc, ce que nous avons observé, c'est un lien entre une plus forte consommation de certains de ces émulsifiants, et notamment certaines celluloses, comme carboxyméthylcellulose, par exemple, ou encore des mono- et diglycérides d'acide gras, et donc un risque accru de différentes maladies cardiovasculaires ou coronariennes ou cérébrovasculaires.
Ça veut dire que vous suivez la santé cardiaque précisément de ces personnes ou vous ne suivez en fait que les diagnostics de maladies cardiovasculaires ?
Oui, dans cette étude, en fait, on enregistre donc régulièrement les consommations alimentaires des participants. Mmh. Ils nous déclarent tout ce qu'ils ont mangé au cours de 24 heures de manière très précise avec les noms, les marques des produits. Et puis, on a des questionnaires sur leur santé régulièrement au cours du suivi. Et lorsque un événement de santé, comme par exemple un infarctus du myocarde, nous est déclaré, on a un comité de médecins qui va valider l'information, donc contacter le patient, contacter éventuellement son médecin traitant, l'hôpital, etc., pour avoir les informations pour valider l'événement.
Maintenant, les résultats. Qu'est-ce que vous avez compris ? Qu'est-ce que vous avez appris sur la corrélation entre le déclenchement de certains symptômes et la consommation de ces petits produits chimiques ?
Donc voilà, on a observé que les personnes qui consommaient plus de différents émulsifiants, donc différentes celluloses, des mono- et diglycérides d'acide gras qu'on retrouve très fréquemment dans notamment les biscuits, les pâtisseries industrielles, avaient plus de risques de développer au cours du suivi une maladie cardiovasculaire.
Donc, on va dire que ce n'est pas très bon pour le cœur. Est-ce que, à la lecture de ces résultats, il vous semble que les réglementations actuelles en termes de présence, de quantité, d'interdiction, voire de ces émulsifiants alimentaires, devraient être rediscutées ?
Alors là où on reste prudent, c'est que c'est la première étude au monde qui a pu regarder les liens entre cette exposition aux émulsifiants et le risque de maladies cardiovasculaires, parce qu'on avait ces données justement très fines dans l'étude Nutrinet Santé. Donc, comme d'habitude en recherche, on veut vraiment confirmer ces résultats-là dans d'autres populations dans le monde. Par contre, on a quand même pas mal d'éléments d'un point de vue expérimental sur des modèles cellulaires, sur les animaux, sur aussi des essais randomisés, donc des essais à court terme chez l'homme, qui montre un impact négatif de certains émulsifiants sur le microbiote intestinal, sur le fait qu'ils augmentent aussi l'inflammation, qui peuvent conduire à des perturbations du métabolisme. Donc tout ça mis bout à bout, c'est vrai que ça nous amène à penser que ce serait bien à ce moment-là de réévaluer la sécurité de ces additifs et qu'il y ait donc une expertise collective qui se penche sur cette question.
Vous dites collectif, justement, ça concerne bien sûr les patients, les consommateurs, ça concerne les autorités de santé, ça concerne aussi au premier plan l'industrie agroalimentaire. Est-ce que ces industriels ont d'ores et déjà commenté vos travaux, même si c'est très très récent, ou il va falloir encore un petit peu de temps ?
Alors, les industriels sont saisis de cette question plus généralement de l'ultra-transformation, de l'utilisation d'additifs qui ne sont pas essentiels pour la santé humaine, pour éliminer les bactéries, etc. Donc, cette question-là, on commence à la poser maintenant depuis quelques années. Donc, ouais. Certains vont dans le bon sens et commencent à essayer d'éliminer, de voir comment formuler des aliments sans utiliser ces additifs dits cosmétiques. Et puis, il y a encore beaucoup de chemin à faire pour d'autres. Donc, on espère que ça suivra dans quelques années.
Un grand merci à vous pour toutes ces explications. C'était très, très clair, docteur Mathilde Touvier. Merci pour cet éclairage. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. Ophélie Lassen et Louise Kalédek, Didier Bleu et Laurent Hérault avec nous aujourd'hui. Demain, on va se donner rendez-vous comme tous les jours à 9h10, temps universel tous les jours de la semaine. Et d'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sounou Banque avec vous à chaque étape.